Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10€ vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Cindy. Bonjour Cindy.
Salut.
Pour vous rappeler qui est Cindy. Donc Cindy, tu es la fondatrice de Curcuma Box et tu es la maman de 2 enfants. Donc tu vas te représenter. Mais surtout, je t'ai déjà interviewée dans Nouveau Chapitre. Donc à l'époque, tu nous avais parlé, on avait eu comme sujet donc, la maternité et la maladie, puisque tu avais été contracté un cancer du sein. Un an, je crois, après la naissance de ta fille aînée, Louise.
Oui, voilà. C'est ça.
Et là, maintenant, je te retrouve parce que tu as eu ton petit garçon qui est arrivé il y a 2 mois. Et on va parler de tout ça ensemble, si tu veux bien.
Voilà. Avec plaisir.
Est-ce que tu peux te représenter simplement un peu rapidement pour qu'on apprenne ou réapprenne à te connaître ?
Alors, donc, je suis Cindy, oui. J'ai 37 ans. Je suis en couple depuis 15 ans.
Oui.
Donc voilà, on a une petite fille Louise qui a 7 ans et demi, qui est dans les parages.
Oui, c'est les vacances scolaires.
C'est ça.
Qui essaye de ne pas faire craquer le parquet.
Je ne pense pas qu'elle y arrive, mais on va miser dessus. Et donc là, on a eu un petit garçon, un petit Marcus de 2 mois et demi. Et on est très contents.
Bah ouais,
c'était pas gagné. Donc,
on va
donc je suis
ça.
La fondatrice de Curcuma Box, effectivement, ouais. Que j'ai créé suite à mon cancer du sein.
Tout à fait.
Donc un blog de conseils et, qui parle d'une santé différente et une marque de granola aussi. Voilà.
Vous avez excellent.
Merci. <Voilà. rire> qui marche bien aussi grâce à Instagram. Donc ça, c'est cool.
C'est cool. C'est mérité en même temps. Donc, on va parler de toute l'étape, toute la maternité avec Marcus, puisqu'on avait déjà parlé de la partie maternité
avec
Louise.
Et la maladie.
Et de la maladie. Donc, quand on s'est vu, on est en train de calculer, c'était il y a 2 ans ou un an et demi, un an et demi, pour reprendre le chemin. Quand est-ce que tu as eu ce désir de deuxième enfant et quand est-ce que vous l'avez mis en route? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, moi j'ai toujours eu un désir de deuxième enfant, c'était clair, c'était en moi depuis le début. Après, on a géré comme on a pu avec la maladie, donc j'ai eu un cancer du sein 1 an après la naissance de ma fille.
Ouais.
Donc elle était très petite, j'ai dû me soigner, j'avais très peur aussi de ne pas la voir grandir, donc le projet était clairement mis en stand-by. Une fois tous les traitements faits, donc j'ai eu la totale, en plus chimio, mastectomie et rayon. Et il me fait des gros sourires. Et une fois tout ce processus de guérison, il a fallu encaisser aussi. C'est pas simple. Quand on est relargué dans la nature après tous les traitements, il faut aussi reprendre sa vie et un peu le rythme. Et puis l'envie s'est représentée naturellement. Après, pendant les traitements, j'avais aussi préservé mes ovocytes.
D'accord.
Donc ça, c'est une chose qu'on propose pas systématiquement et c'est très regrettable. Donc, c'est-à-dire que les traitements peuvent rendre stériles.
Ok.
Donc, il y a une solution, c'est de préserver ces ovocytes avant de commencer les chimios. Okay. Et c'est des ovocytes qui sont congelés, qui ne sont pas à maturation, mais qu'on pourra utiliser si jamais il y a une stérilité due au traitement.
D'accord, donc c'est une ponction d'ovocytes.
Une ponction d'ovocytes, voilà.
Ça, c'est
donc,
intéressant.
Donc, il n'y a pas de stimulation. Après, je ne suis pas une experte, mais il n'y a pas de stimulation. Donc, ce ne sont pas des ovules mûrs.
D'accord.
Mais on les fait mûrir sous lampe.
Okay.
Et après, on peut avoir des bébés...
D'accord.
Avec ces petits ovocytes, donc c'est hyper important pour les jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui en veulent encore.
C'est important d'avoir cette information.
C'est important clair. D'avoir l'information pour savoir qu'on peut le faire. Parce
D'accord.
que moi, j'ai dû quand même batailler un peu pour le faire. On me disait que j'étais dans l'urgence, qu'il fallait commencer les traitements, mais j'ai tout de suite dit non.
Okay.
Je veux préserver mes ovocytes, c'est pas grave, si ça prend 2 semaines de plus,
Ok, je prends le risque. Suite au traitement, tu as eu besoin d'avoir recours à ces ovocytes ou est-ce que les traitements ont eu un impact sur ta fertilité ou pas ?
Alors les traitements, les chimios ont eu un impact sur ma fertilité. Après, on ne sait pas si c'est les chimios ou l'âge finalement, puisque oui. Passé 35 ans, quoi qu'il arrive, la fertilité baisse. Mm-hmm. Mais ma réserve ovarienne a baissé des deux tiers quand même. Donc je pense que la chimio a bien attaqué la réserve ovarienne. Mm-hmm. Donc je savais que j'avais cette option. Déjà, ça me rassurait beaucoup.
Bien sûr.
Même si, au fond de moi, je sais même pas si j'aurais eu, si je l'aurais utilisé.
Oui.
Je sais pas si j'aurais fait toute cette démarche encore d'entrer dans des trucs médicaux. C'était un peu lourd pour moi. Mais il s'est présenté naturellement. Donc ça a été long, par contre, c'était très long avant que je tombe enceinte. J'ai fait deux fausses couches.
Deux fausses couches.
Dont une à deux mois et demi, donc c'était un peu dur.
Ouais, tardive quoi.
Ouais, assez tardive. Mmh. Mais finalement, le mois qui a suivi, cette deuxième fausse couche, il s'est présenté. Mais voilà, il m'a fallu 2 ans.
2 ans.
Ouais.
Pour tomber enceinte.
2 ans pour tomber enceinte.
Ok. Donc quand tu as accueilli cette nouvelle. Comment t'as réagi ?
Ben, on était hyper contents.
Ouais.
Sauf que bon. Il y a eu 2 fausses couches entre-temps, quand même, donc on était assez frileux, en fait. Mm-hmm. La première grossesse qui s'est présentée, on était au taquet, on s'est dit, c'est bon, ça marche, ça reprend. Après, voilà, elle s'est arrêtée au bout de 5 semaines, donc ça nous a mis une belle claque, quand même. On s'est dit, bon, ça arrive à tout le monde, on prend le dessus, puis on y va. La deuxième grossesse s'est présentée 1 an après, donc il a fallu attendre longtemps.
Ouais. C'était long.
Donc là, je me suis dit, ça reviendra jamais, en fait.
Ouais.
Et on m'a proposé des traitements que j'ai pas voulu, à la progestérone et autres. Je me suis dit non, j'ai.
Ouais.
Depuis les traitements par chimio, je suis.
J'imagine.
Très limitée sur. J'ai pas du tout envie de me prendre des cachets. Et du coup, naturellement, une deuxième grossesse s'est présentée.
Oui.
Bien partie, bien engagée. Premier écho le lendemain et la veille. Direction les urgences, fausse couche. Donc ça, c'était très, très dur, par contre.
Ça, c'était celle qui était à 5 semaines.
Ouais.
C'est ça. À 2 mois et demi.
À 2 mois et demi, ouais.
Donc
là, ça a été assez violent comme coup, parce que moi, je l'ai vécu comme un deuil, en fait.
Bien sûr.
Clairement. Ouais, c'était, j'ai vu le bébé était là. C'était, Donc là, il a fallu clairement digérer la nouvelle. Ça m'a pris du temps, mais j'en ai pas eu tant que ça, puisque je suis retombée enceinte le mois qui a suivi.
Ah ouais.
Donc tu vois, j'ai attendu 1 an pour la deuxième grossesse et... pour ce petit Marcus, le mois qui suivait.
Ouais.
Donc, par contre, psychologiquement, ça a été compliqué, quoi.
Bien sûr,
parce que
tu te mets pas dedans, j'imagine, tout de suite, quoi.
Tu sais plus si t'es enceinte, t'es pas enceinte. Et puis, finalement, cette grossesse, pour moi, elle a duré 12 mois, quoi. C'était très long d'enchaîner.
Bien sûr.
Donc, et puis, voilà, puis la peur, malgré tout.
Bien sûr.
Que ça s'arrête.
Ouais,
même si j'avais décidé, pour cette troisième grossesse, de laisser couler et de... après c'est toujours facile à dire, mais je pense que j'étais finalement moins stressée pour cette troisième que celle d'avant.
D'accord.
Donc voilà, écoute, elle est arrivée à terme, ça s'est bien passé.
Tant mieux. Et donc en fait, ces grossesses, tu les as eues naturellement, d'accord, que tu n'as pas utilisé la ponction.
Et je m'étais dit, en plus, après c'est, voilà, je savais que j'avais cette opportunité, et pour moi c'était hyper important, mais je m'étais dit en moi-même que j'y aurais pas recours.
Ouais.
Je voulais pas.
Oui, parce que
j'étais très médicalisée pour le cancer.
Ça nécessitait des traitements. Ça
nécessitait des traitements dont j'avais pas envie.
Ouais, je comprends.
Donc je m'étais dit, j'aurai une fille et puis ce sera très bien comme ça.
Ouais. Et du coup.
Du coup, il
est là.
Il ne m'a pas laissé le temps de la réflexion.
C'est ça. Il est à côté de nous et il participe aussi au podcast.
Ouais.
Comment t'as vécu physiquement cette deuxième grossesse?
La deuxième aboutie, en tout cas.
La deuxième aboutie.
Plutôt bien. Donc, pour ma fille, j'étais très très malade. J'avais perdu 10 kilos pendant la grossesse.
Ah oui.
Donc c'était une fille, les hormones, je sais pas, voilà ce qui a joué. En tout cas, là, j'étais un peu nauséeuse les 2-3 premiers mois, mais franchement, rien à voir.
Oui, classique.
Et après, très bien. J'étais plutôt très en forme. J'ai fait du yoga jusqu'au 9e mois. Je me sentais vraiment, vraiment bien. Et puis légère, quoi. J'ai pas pris beaucoup de poids, 10 kilos, donc je pouvais vaquer à toutes mes occupations sans problème.
Et par rapport à ta poitrine, par rapport à ta mastectomie, il y a eu un. Enfin, je sais pas, ça t'a. Tu y as pensé pendant la grossesse, ça t'a.
Alors, ça m'a pas trop stressée.
Ouais.
Parce que j'ai vraiment fait un gros travail sur moi-même après cette fausse couche pour justement lâcher prise, quoi. Et,
ok.
Et pas stressée, quoi. De toute façon, tout était enclenché, j'ai pas la main. Pendant qu'on est enceinte, on peut pas faire d'examen, donc voilà, il y avait pas de. Et non, j'ai pas. J'ai été plutôt sereine. Ça a été très agréable.
Ouais, très important.
Ouais, très important. Mmh. Après, le problème, c'est que j'ai un sein qui a doublé, voire triplé de volume. Donc bon, vu que j'en ai qu'un, faut adapter la prothèse à côté. Enfin bon, c'est, enfin, ça n'a jamais été un réel problème pour moi, ça, donc ça va.
Et donc, tu me disais que pour cette deuxième grossesse, tu t'es préparée à un accouchement physiologique. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche?
Alors, en fait, pour ma fille, j'ai eu un accouchement par césarienne. Mm-hmm. Et j'ai vraiment eu l'impression de m'être fait voler un peu mon accouchement. Je n'étais pas renseignée du tout, je n'étais pas informée.
Ouais.
On me disait de faire quelque chose et j'y allais sans problème. Avec la maladie, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mon corps, sur ma santé. Et ça m'a donné vraiment envie de pousser aussi cette expérience de l'accouchement, parce que c'est pas censé être quelque chose de très médicalisé à la base. C'est censé être plutôt naturel, si on a la chance que ça se passe comme ça, en tout cas.
Tout à fait.
Donc, comme pour la maladie, j'ai lu énormément de livres. Je me suis énormément documentée. J'ai lu des livres qui m'ont ouvert les yeux sur comment on nous dépossédait aussi un peu de notre maternité, finalement, puisque c'est quand même nous... les mettre à bord, hein, comme pour la maladie, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
C'est nous qui avons les clés en main aussi, beaucoup. Avec toutes ces lectures, je me suis dit que c'était possible, la grossesse se passait bien. Donc Après, sans être obtus, c'est-à-dire que je savais aussi que du jour au lendemain, il pouvait arriver
bien
n'importe
sûr.
Quoi. Et voilà, ça pouvait ne pas se passer comme je l'avais prévu. Ce qui était le cas.
Tu vas nous
c'est
raconter
pas
ça.
Pas du tout passé comme j'avais prévu. Mais bon, en tout cas, je sais que la plupart des femmes, malheureusement, sont mal informées. Et qu'on nous impose des choses qu'on n'a pas forcément acceptées. Donc c'est bien de... Il y a des livres qui devraient se passer, je trouve, moi, de main en main, comme des grimoires un peu.
T'en as un en particulier qui t'a...
Celui qui m'a le plus marqué, c'est la naissance naturelle.
D'accord.
D'Ina Megaskin. Donc c'est une référence chez les sages-femmes, chez les doulas, chez tout le monde.
En description de l'épisode, ouais.
Ouais.
D'accord.
Et il est top. C'est vraiment... c'est un gros pavé, hein, mais c'est des femmes qui... C'est une femme qui a ouvert, en fait, ce qui s'appelle The Farm, aux États-Unis.
Ah oui. Ouais, j'en ai entendu parler.
Voilà, qui a fait plus de 5000 accouchements... Sans qu'il y ait de problème particulier, sans qu'il y ait forcément de césarienne, sans qu'il y ait de péridurale, bien sûr.
Okay.
Donc c'est que des accouchements naturels qui sont très bien passés. Et ça donne envie, et puis on voit que c'est faisable, surtout. Mm-hmm. Tout est possible. Le corps est fait pour ça, en fait. Hein.
Oui, c'est clair.
On a l'impression qu'on est censé accoucher les jambes écartées sur une table, que voilà, mais ça, c'est l'obstétrique qui s'est mise en place progressivement, mais à la base, la femme sait accoucher naturellement.
Oui.
Après, évidemment, j'appuie là-dessus, il y a des cas où...
Bien sûr,
on a besoin d'être médicalisé.
Tout à fait.
Et tant mieux que ça, heureusement, qu'on ait cette possibilité. Ouais.
Mais alors, donc, du coup, tu as lu des livres. Est-ce que tu as fait une préparation spécifique avec une sage-femme, du yoga, je sais pas, ou c'était juste
le yoga, déjà, c'était des cours prénataux, donc ça m'a beaucoup aidée. L'ouverture du bassin et autres, certaines positions. J'ai lu pas mal de bouquins aussi du docteur De Gasquet, qui est une kiné, qui forme aussi tous les professeurs de yoga, en plus, en prénatal. Et j'ai découvert plein de positions physiologiques, donc je me suis, un peu entraînée, surtout
comme
avec le yoga,
ouais.
Et puis psychologiquement, et puis sur la respiration, sur plein de choses.
T'as pas été accompagnée par une doula ou par...
Non, j'ai pas été accompagnée par une doula.
Par une sage-femme spéciale
Non.
Ok.
J'ai été suivie au Bluet, donc ça, je sais pas si... Bref, sur Paris, et ils sont réputés pour les accouchements physiologiques.
Oui,
donc
oui.
Voilà, toutes les sages-femmes que je rencontrais là-bas...
De toute façon, étaient très ouvertes au
exactement.
Sujet, quoi.
Après, ma problématique sur l'accouchement physiologique et sur la non-péridurale, c'est que j'ai eu une césarienne.
Oui.
Et ça plaît pas.
C'est-à-dire
que dans les maisons de naissance, on veut pas de moi.
D'accord.
Et pour des accouchements physiologiques sans péridural, ils sont pas tous d'accord. Ils imposent la pose du cathéter au moins.
Ok. Et parce que quel est le risque, en fait, c'est par rapport à la cicatrice.
Exactement.
Ça
fait un utérus cicatriciel et la probabilité que tu repartes en césarienne est plus élevée que si tu n'as pas eu de césarienne auparavant. Donc là-dessus aussi, j'ai dû un peu batailler pour dire, je voudrais commencer au moins le travail sans qu'on me pose quoi que ce soit, qu'on me laisse
essayer.
Voilà.
Et alors du coup, comment ça s'est passé?
Alors du coup, moi j'avais ma petite idée en tête, hein, mais bon.
Ça c'est la magie de la maternité d'accouchement.
C'est ça.
On
donc
a
en fait,
idées,
c'est ça.
Puis à la vraie vie.
Et puis après on se fait remettre à sa place tranquillement. Donc en fait, ma fille. Était orientée en OS pour le coup, et c'est pour ça que j'ai fini en césarienne parce qu'elle s'engageait pas dans le bassin.
Alors, OS, rappelle-moi.
OS, ça veut dire que le visage est contre mon ventre.
Ok.
Donc, si elle s'engage dans le bassin, c'est au plus large de son crâne.
Ok.
Et en fait, ma fille descendait pas, j'ai fini en césarienne, et le fait est que pour mon fils, c'était pareil.
Ah ouais, c'est
donc
cool.
C'est très ça reste assez rare, c'est moins de 10% des grossesses, je crois, sans dire de bêtises. Donc visiblement, c'est que, je sais pas, on m'a dit que peut-être mon bassin faisait que les enfants ne s'y engageaient pas. Je sais pas, il doit y avoir une particularité en tout cas qui fait que.
D'accord.
Mais il avait la même position, donc déjà je me dis « Oula, ça commence avec un petit souci, c'est super !» Mais bon, j'ai commencé mes contractions à la maison, je suis allée tranquillement à la maternité et j'ai tenu 8 heures en contraction obluée dans ma baignoire.
Dans une baignoire.
Dans une baignoire, avec des contractions franchement atroces. Parce que quand le bébé a la colonne contre... avait sa colonne vertébrale contre la mienne.
Oui.
Et ça fait des contractions apparemment très douloureuses.
D'accord.
Donc ça a été... Ça a été compliqué.
T'as tenu 8 heures.
J'ai tenu 8 heures. Après, on m'a dit, bon, le bébé ne s'engage pas. Le col s'ouvrait tranquillement.
Ouais,
j'étais à 6 ou 7. Voilà, ça suivait son cours et c'était pas le problème. Mais le bébé ne s'engageait pas. Enfin, ne descendait pas, en tout cas.
Ok.
Et du coup, on m'a dit qu'il allait falloir passer un retournement... Enfin, on allait tenter de le retourner manuellement.
Okay.
Sauf qu'il me fallait la péridurale, parce que sans péridurale, c'est juste pas possible. C'est atrocement douloureux. Ouais. Bon, ouais. On m'a dit, on va vous faire une péridurale. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, piquez-moi, allez-y, j'en peux plus. Donc voilà, tu vois, j'ai pas
voici
trop...
voici mon dos.
Je me suis pas trop défendue pour pas l'avoir. Mais j'ai tenu 8 heures, quand même.
Ouais. Elle a tenu 8 heures.
Ouais, parce qu'il se marre, mais bon, hein, c'était pas si drôle. Et du coup, une fois qu'on m'a mis la péridurale, j'ai enfin pu un peu dormir et ça m'a beaucoup soulagée, forcément.
D'accord, t'as dormi, ouais. Bah oui,
j'ai
épuisement,
dormi,
quoi.
Ouais. Épuisement complet.
Ouais, ouais.
Et on a tenté donc 3 fois de le retourner, il a pas voulu.
D'accord.
À chaque fois, il remontait. Donc on descendait, il remontait, on descendait, il remontait.
Ah ouais.
Donc après, j'ai eu des sages-femmes autour de moi extraordinaires, hein, qui m'ont fait de l'acupuncture, qui ont vraiment tout tenté.
C'est pas vrai.
Ouais, elle était
incroyable.
Elle était fabuleuse. Et elle m'a dit, bon, votre cas est un peu compliqué. J'ai dit aux autres, j'ai eu de la chance qu'il n'y avait pas beaucoup de monde aussi, hein, visiblement à ce moment-là. J'ai dit aux autres sages-femmes de ne pas me déranger, je reste avec vous 24/24.
Trop
bien. J'ai dit, super.
L'accompagnement de rêve, quand même.
L'accompagnement de rêve, elle m'a fait faire toutes les positions possibles et inimaginables. Enfin, là, vraiment, elle voyait que l'accouchement par voie basse me tenait vraiment à cœur et elle a tout fait pour...
C'est super.
Et puis l'obstétricienne qui me suivait et qui m'avait suivie au lieu pour les fausses couches était là aussi et m'a suivie du début à la fin et m'ont accompagnée vraiment dans ce projet de voie basse.
Non, mais c'est génial d'avoir eu ta gynéco aussi.
Ouais, c'est complètement.
Ouais,
parce que déjà, pour Louise, j'étais en césarienne.
Ouais.
Donc elles m'ont laissé beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'opportunités de le sortir.
Et donc, alors du coup,
et donc, à un moment donné, le retour, enfin, elle n'y arrive pas, quoi. Elle donne tout, mais donc l'obstétricienne me dit, on va pousser. Et s'il sort pas avec la poussée, malheureusement, on aura tout donné. Au moins, vous aurez tout essayé. Ça finira en césarienne.
Pas de regret.
Ok. Donc là, on me dit, faut tout donner. Donc moi, je donne tout. Hein. Donc, je pousse comme une malade. Et au moment de la poussée, ils essaient de le retourner, mais ils ne se retournent pas. Ils me disent, c'est un bébé qui va sortir en OS, hein, donc au plus large de son crâne.
Ça, c'est possible, donc.
C'est possible, mais bon, vu les dégâts qui s'en suivent, on a un petit regret sur la césarienne, quand même.
C'est vrai.
Donc, il est sorti en OS avec les cuillères, avec une épisio.
Ah oui.
Sachant qu'il y a moins d'1% d'épisio oblué, j'en fais partie. Voilà, je suis hyper contente. Accouchement physiologique du début à la fin.
Avec les cuillères et l'épisio. Ouais, l'épisio, c'était vraiment obligé, quoi. Ouais.
Ça aurait été une déchirure horrible,
énorme,
quoi.
Ouais,
donc, j'ai eu une petite épisio. Voilà.
Ouais.
Donc, c'est comme ça.
Et les cuillères, c'est
comme
des forceps, en fait.
C'est comme des forceps.
Ouais.
C'est une autre sorte d'outil. Enfin, je crois que les cuillères, il y a un creux. Les forceps, non. Enfin, je sais pas
donc
où c'est l'inverse.
Là, c'est vrai que la péridurale est quand même un peu indispensable, je pense.
Ouais. Carrément. Mon mec a vu la mallette et a vu les instruments. Il a fait « Oh, putain !» Je dis quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Regarde pas sur toi.
Regarde pas, ouais. Non, désolé. Mais bon, voilà. Je savais ce qui m'attendait, quoi. Bon,
ça a duré combien de temps, ça ?
La poussée, de toute façon, c'est timé. Hein, 45 minutes de poussée.
Oui.
Après, il t'envoie, si ça
ne
sort pas, il t'envoie césarienne. Ouais. Donc, il est sorti. Hein, j'ai vraiment poussé comme une folle. Puis avec mon yoga, et voilà, je savais que je poussais comme il fallait.
Oui, ça aide beaucoup aussi.
Ça aide beaucoup. Mm-hmm. Donc, il est sorti. Donc là, c'était le moment magique. Il est sorti avec ses grandes billes. En plus, ils m'ont laissé l'attraper. Ils m'ont laissé couper le cordon. Alors qu'il avait un tour de cordon
et
une bretelle.
Ah ouais.
Et c'est pour ça qu'il descendait pas, parce qu'il était accroché avec le cordon.
Ah ouais.
Mais ça, on le savait pas. Et donc, je l'ai attrapé, je l'ai posé sur moi. Et là, tu te dis, c'est tout ce que j'attendais depuis.
Ouais.
Et puis, on n'y croyait plus. Avec mon mec, on était...
Ouais.
J'étais tellement, tellement émue.
Donc, trop heureuse d'avoir eu
trop heureuse.
Par voie
basse. On a pleuré comme des madeleines. Puis après, on te laisse 2 heures en peau à peau.
Oui, ça, c'est génial. C'est la magie, ça.
C'est la magie, ce que j'ai pas eu pour ma fille, quoi, et que je regrette beaucoup.
Et oui, bien sûr.
Donc, c'était top.
Et alors, ensuite, comment ça s'est passé pour toi? Je sais que tu as voulu... Enfin, c'est pas que tu as voulu, c'est que tu le fais toujours. Je sais que tu l'allaites.
Oui.
Raconte-nous comment ça se passe, un allaitement avec un seul sein.
Alors, voilà. Déjà, j'ai eu un postpartum très compliqué. C'est-à-dire que, du fait qu'il soit sorti au plus large de son crâne, j'ai eu une entorse du bassin. C'est un dérèglement de la symphyse pubienne. Donc, pendant 2 semaines, j'ai pas pu marcher.
Incroyable.
Donc, quand t'es à la maternité, que ton enfant, il est très demandeur, que t'as ta montée de lait, que tu dois allaiter, enfin, c'est... Franchement, j'ai vécu l'enfer. Ouais. J'ai eu un mois et demi vraiment très, très dur.
Comment ça se passe, en fait, cette symphyse pubienne? Tu dois faire quoi? De l'ostéo?
Je dois faire de l'ostéo.
Ouais.
En fait, en plus, je suis restée un moment à la maternité, enfin, cinq jours, puisqu'il a fait une petite jaunisse, donc on a dû le mettre sous lampe.
Oui, en plus.
Et moi, j'étais dans une douleur, mais pas possible. Du coup, moi qui n'ai pas pris de médicaments pendant longtemps, donc là, je me tape et une péridurale et des antidouleurs, parce que franchement, la douleur est atroce. Donc, c'est-à-dire qu'on me donne...
Ça fait très mal.
Ouais, on me donne un antidouleur que je gobe, parce que franchement, j'en peux plus, je ne tiens plus.
Bien sûr. Ouais.
Donc là, voilà, tous les beaux principes de pas de médicaments.
Oui,
quand t'es à quatre pattes et que tu pleures et que... Donc j'ai pris mes petits antidouleurs et j'ai eu ma montée de lait et enfin je galérais un peu quoi.
Donc, t'es resté combien de temps à la clinique?
Bah 5 jours.
5 jours.
Ah parce oui. Qu'il a fait jeunesse, c'est même pas pour moi hein, parce que bon, moi pour eux j'étais viable sauf que je marchais pas.
Mais ils t'ont laissé sortir sans marcher.
Bah ouais. Enfin si tu veux je marchais mais. Je faisais un pas en 5 minutes, quoi.
Ouais,
c'est-à-dire que je suis sortie quand même avec le petit fauteuil, et voilà, quoi. Ouais. C'était très très compliqué.
J'aurais imaginé qu'ils allaient te garder un petit peu plus, pas vraiment.
Bah non, pas vraiment.
D'accord.
Et puis en plus, j'avais envie de sortir, quoi, en vrai.
Oui, je comprends ça, oui.
Plus,
bien sûr.
J'avais plus envie d'être là, je voulais être chez moi. Sauf que chez moi, il y a des escaliers, c'est compliqué. Mon mec a tout géré pendant 2-3 semaines. Et du coup. À un moment donné, il va aussi pour porter le couffin, il se bloque le dos. J'ai dit, non, tu peux pas faire ça. On peut pas être deux éclopés à la maison, ça va pas le faire.
Ça s'est débloqué facilement, son dos.
Oui, voilà, il s'allongeait par terre, il y avait son père qui était là, donc il nous a aidés, il l'a massé. Enfin, c'était franchement un mois et demi d'enfer, vraiment.
Ouais, je comprends.
Donc oui, cet allaitement a été un peu compliqué parce que j'allaite avec un sein. Oui. Je savais que c'était possible, hein, je m'étais renseignée, et je sais que des femmes opérées ou des femmes qui ont un problème à l'autre sein, tu peux allaiter avec un sein, c'est
d'accord.
possible. Donc moi,
bien sûr,
voilà, très optimiste, je me suis dit que ça allait le faire et que ça allait pas poser de problème, sauf que ça a été compliqué parce qu'il était très demandeur, il avait très faim.
D'accord.
Donc j'ai allaité exclusivement pendant 3 semaines, j'allais le peser à la PMI, il perdait du poids.
Okay.
Chaque jour où j'y allais, il perdait un peu plus de poids. Donc on m'a dit, bon, stop, là, il faut complémenter. Hein, quitte à commencer à complémenter et reprendre l'allaitement, en stimulant derrière avec tirer son lait et autres. Ce que j'ai fait, j'ai complémenté. Mm-hmm. Il a bien repris du poids. J'ai commencé à diminuer les biberons.
Biberons, donc de lait...
artificiel.
Artificiel, ouais.
Sauf que il n'était pas d'accord. Il continuait à très bien téter, si tu veux, mais il avait besoin de plus. Donc j'étais obligée de continuer. Donc aujourd'hui, je suis en allaitement mixte. Et il tète très bien, mais à côté, il a ses petits bibes de complément.
C'est super. Comment tu organises une tétée en allaitement mixte? C'est-à-dire que tu commences par le sein et
je commence toujours par le sein.
Ouais.
Donc,
et ensuite, tu vois s'il a faim ou pas. Et,
exactement.
Ok.
Donc la priorité, c'est le sein. Donc, voilà. Pendant la nuit, là, il commence à faire ses nuits. Donc déjà, c'est plutôt cool. Il fait minuit 8h, donc ça commence à être sympa.
Ouais. Il est parfait. Ouais.
Et au début, il hurlait tout le temps, mais en fait, il avait faim, quoi.
Oui.
Donc dès lors qu'on a aussi introduit les bibes, il était contenté et il était beaucoup plus apaisé, quoi, ça se voyait. Il était moins en souffrance. Et du coup, je commence toujours par une tétée, et même la nuit, il prend aucun biberon. Tu vois, avant de se coucher, il va prendre une tétée, et en se levant, il va prendre une tétée, et il va réclamer son biberon sur les coups de midi, quoi.
D'accord. D'accord.
Donc voilà. Et puis si la tétée lui suffit, je lui propose pas de biberon.
Et ton intention, c'est de l'allaiter. Enfin, tu penses, par exemple, avec la diversification, peut-être que le sein suffira.
C'est ce que je me dis.
C'est ce que tu te dis. Ouais. Ouais.
Après, je sais pas dans quelle mesure ça va fonctionner. Encore une fois, j'ai des idées en tête, mais on sait pas comment ça va se goupiller. Mais oui, je me dis qu'avec la diversification, effectivement, le sein le matin, le soir, déjà, je compte continuer, c'est sûr, autant que je puisse le faire. Mais je pense que ça peut.
Ouais, je pense, j'imagine, bien sûr. Bah, de toute façon, tu nous diras.
On fera un troisième podcast et puis on en parlera.
Tu nous diras. Et pour la montée de lait, ça s'est passé normalement, classiquement?
Facilement que pour ma fille.
D'accord.
Je pense que pour un deuxième, enfin je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais ça a été.
Je suis en démontée de lait.
Ah ouais, moi c'était beaucoup moins douloureux que pour ma fille.
Ouais, non, moi ça a été pareil les deux.
Ouais, c'est pas grave. Moi, ma fille, c'était le sang, les deux seins en brique, une horreur. Enfin, ouais. Très, très douloureux, là, beaucoup moins.
Et par rapport à, donc, tu disais, à ton postpartum, là, donc là, il a 2 mois et demi. Enfin, comment tu fais ? T'as commencé la rééduc du périnée, tout ça ? Je sais pas.
Oui, j'ai commencé à 2 mois. Ouais. Donc, le postpartum, ouais, enfin, pour moi, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que là, veux, encore, ouais. Je porte ma ceinture. Ouais. Tu vois, il a quasiment 3 mois et... Et je vois bien que je peux pas refaire encore du yoga vraiment, ouais. Sauf certaines positions. Courir, on n'en parle même pas. Je sens bien que j'ai le périnée dans les chaussettes, quoi. Donc ouais. Voilà, j'ai poussé, j'ai tout donné, mais après... C'est là où je me dis aussi qu'une césarienne, je m'en suis remise beaucoup plus facilement.
C'est vrai.
Au final, ouais, ouais. Tu vois.
Ouais.
C'est, enfin, après, moi, je me remets tout le temps en question. Hein. Je suis pas butée sur mes idées.
Non, mais
il
c'est
faut absolument un truc ouais. physiologique. Je savais que voilà, ça pouvait aussi... ne pas se passer comme je voulais, ça a été le cas. Mmh. Et je me dis, oui, j'ai adoré l'avoir pendant 2 heures sur moi, le sortir, mais qu'est-ce que j'ai pu souffrir après ?
Ouais.
La césarienne, en 2 jours, je souffrais plus et je marchais, quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc, voilà. Et puis, j'ai des dégâts au périnée, donc visiblement, la sage-femme me dit que c'est pas la cata, mais... Il va me falloir du temps pour m'en remettre. Et oui. Je ne sais pas dans quelle mesure aussi je vais m'en remettre à 100%. Quoi.
Oui, tu vas faire peut-être une rééducation un petit peu plus longue.
Ouais, elle me dit que ce n'est pas nécessaire. Mais bon, moi, je sens bien que j'ai le périnée dans les chaussettes. Quoi.
Ouais. Non, c'est clair. Bon, après, c'est l'effet deuxième aussi. Hein.
Ouais, peut-être.
Ouais.
Hein,
c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on en discutait. J'ai eu cette sensation aussi quand même que c'est... Enfin, le périnée, il prend
il est là, quoi.
Plus cher. Quoi. Ouais. Ouais, il est ça. Là, mais on sent qu'il est fatigué. Quoi.
Et c'est ça, voilà.
Et le bassin, c'est comment là ? Ça y est, c'est fini ?
C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. J'ai encore de l'ostéo.
Ouais.
Par contre, je conseille à toutes les femmes qui vivent ça, ou même pour un accouchement par voie basse, de passer par un ostéo en intra-pelvien. C'est magique. Donc en fait, elle travaille en intra-pelvien. Il y en a même qui travaillent en atra, je sais pas comment on dit, par les fesses. Mais c'est bluffant.
Ouais.
Moi, en quelques séances, elle m'a remis le coccyx, le bassin, la symphyse. Ouais, ça a franchement été génial.
Bon, bah, bonne. Tu vas refaire une séance, c'est ça ? Ou c'est une seule fois ? Ou comment ça se passe ?
J'en ai fait deux déjà et je pense en refaire une autre d'ici
bien.
Peu. Quoi.
Ouais. C'est bon à savoir.
Bah, je connaissais pas et ça m'a fait un bien fou. Et puis elle voit les nourrissons aussi, ce qui est hyper important parce qu'elle me dit, vu l'état de votre bassin, j'aimerais bien voir la tête, le crâne du nourrisson et je trouve ça hyper important.
Tout à fait.
Ouais. Et effectivement. Il était beaucoup plus apaisé une fois qu'il l'a vu. En plus, il a dormi pendant 45 minutes. Elle le massait, il poussait des petits gémissements. Il était là. Oh,
trop chaud.
Et je disais, ouais, bah, ça a l'air de bien se passer pour lui.
Et ça lui a fait mal.
Ouais, ça lui a fait beaucoup de bien.
Et cette deuxième grossesse, cette deuxième maternité, par rapport à ton corps, est-ce que ça a eu un impact de façon générale ou...
Rapport à mon corps, enfin.
Toi, comment tu te sens dans ton corps en dehors des désagréments ? Est-ce que tu t'es dit, waouh, quelle puissance ?
Je trouve ça, de toute façon, la maternité, je trouve ça magique. Franchement, c'est moi, ça me bluffe. Ces petites cellules là qui deviennent un petit Marcus en 9 mois. Enfin, franchement, moi, je trouve ça extraordinaire.
C'est fou, ouais.
Et je pourrais en faire 3, 4, 5. Je pense que je serais toujours autant émerveillée. Ce sera le dernier. Hein, je précise pour mon chéri qui va écouter.
Si jamais il t'écoute,
il va prendre peur. Mais
pas de panique.
Ouais, non, c'est extraordinaire.
Ouais.
Enfin, après, voilà, il y a des femmes qui ne souhaitent pas le vivre, il y en a qui veulent le vivre plusieurs fois, il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir le vivre. Enfin,
c'est des ressentis très personnels.
Tous les cas de figure possibles et inimaginables. Pareil, moi, pour les deux, j'ai eu la chance de tomber amoureuse de mes enfants instantanément. Je sais que parfois, ça prend plus de temps.
Bien sûr.
Et c'est pas pour ça qu'on aime moins ses enfants et qu'on est une mauvaise mère.
Hein. C'est clair.
C'est comme ça, tous les cas de figure. Mais enfin, ouais, c'est un amour inconditionnel, c'est incroyable.
Ouais.
Et je suis tellement heureuse d'avoir pu le revivre une deuxième fois, c'est surtout ça aussi.
Ouais.
Je l'appelle mon bébé miracle en fait.
Bah oui, c'est vrai.
Parce que c'était pas gagné. Et quand je me revois 6 ans en arrière, sans mes cheveux et en plein traitement, je me dis que waouh. Ouais.
Quel parcours quoi.
Ouais, franchement.
Ouais.
C'est le corps est vraiment bluffant quoi. Et puis voilà, il est pas
le corps et le mental aussi, enfin franchement
le corps le mental, enfin tout ça, ça te réserve des belles surprises aussi quoi. Et je suis ravie d'être encore là pour pouvoir les vivre,
bien sûr. Et puis c'est un beau message à faire passer. C'était un peu mon envie en fait, bien sûr, au-delà du plaisir de te voir, de réenregistrer cet épisode, parce que je trouve que c'est une belle leçon et ça peut donner d'espoir à plein de gens.
Complètement.
Et
c'est pour ça que je le partage sur les réseaux aussi, parce que bon, je suis la vie privée, voilà, j'aime préserver ma vie privée, mais je trouve ça tellement important et tellement beau comme message. Je reçois des messages quasiment chaque jour hein, de femmes qui sont en traitement ou qui se posent des questions sur leur fertilité, sur si elles pourront avoir des enfants. Donc oui, ça arrive, je suis pas la seule. Donc ouais, il y a plein d'espoir. C'est cool de le partager.
Ouais, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup Cindy, on va finir sur ces notes positives d'espoir avec ce petit Marcus que vous pouvez pas voir mais que moi je vois
et peut-être que vous entendez.
Ouais, grenier. Sans doute, ouais. Et qui est fort bien réussi. Ah, c'est sa grande sœur d'ailleurs, qui est là aussi.
Qui dessine la savane.
Qui dessine la savane. Merci beaucoup Cindy.
Merci beaucoup.
Salut.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @JolieBump et sur Facebook. À très bientôt.